Radio Balise 99.
Bienvenue au club. Le Rock Club, c'est tous les lundis à 21h en direct et en rediffusion le jeudi à 10h sur le 99.8. Et sur radiobalise.com en direct et en replay à chaque fois maintenant. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bonjour, camarades.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonjour.
Bonsoir.
C'est drôle, nous avons eu dans cette saison de Rock Club des mini-cycles comme ça. La semaine dernière, nous recevions Gilda Tréguier de l'Appel Lorient. Nous parlions pédiatrie, forcément, mais coopération avec le Vietnam. Nous avons forcément bifurqué sur l'histoire indochinoise. Thierry a abordé la Compagnie des Indes. Et cette semaine, nous sommes en compagnie de la conservatrice du musée de la Compagnie des Indes. Bonjour.
Bonjour.
On dit ça,
Comme vous voulez, conservateur, conservatrice, directrice du musée de la Compagnie des Indes.
Du musée de la Compagnie des Indes. Bon, en tout cas, on se retrouve tout à l'heure pour en parler. Messieurs, Eric, toi, tu nous fais découvrir, on me fait découvrir Thierry Ménard, un texte autour de la nostalgie, du deuil.
Mathias Hénard.
Oui,
on va voyager en Sibérie avec Mathias Hénard.
Pourquoi j'ai noté Thierry? Je sais pas, j'ai dû me tromper. C'est Thierry Catrou qui m'a perturbé encore. Thierry, toi, un peu d'histoire, comme d'habitude?
Oui, il y a une manière d'interroger l'histoire.
La nôtre, celle de Lorient, n'est pas si rose. Tu soulèves la question de savoir de quoi veut-on se souvenir.
Exactement, c'est un peu ça. Mais en règle générale.
Bon, on en reparle tout à l'heure avec notre invité. En aparté, aujourd'hui, rien, le vide, le néant. Je commence à être un peu sec d'idées, de trucs à dire. Il est temps de prendre des vacances, que la saison s'arrête, de faire le bilan. Ah zut, ça c'est l'idée de l'émission du 2 juillet, messieurs. Nicolas Milis, à la technique ce soir, bonsoir.
Bonsoir.
Il faut que tu sois là aussi avec Marc. En tout cas, chers auditeurs, là, l'équipe de ce 2 juillet sera au grand complet. Tous les gens qui ont participé en chronique, et je pense à Géraldine, à Étienne Strubel et à d'autres. En juillet et en août, ensuite, il y a ceux qui veulent partir loin, mais qui n'en ont pas les moyens. Mais la Bretagne est un excellent lieu de villégiature. Tiens, il y a Gwen, fidèle auditeur, bonsoir à lui, que nous avions reçu, qui part terminer dans ce Rock Club, qui part terminer son tour d'Europe en vélo dans ce courant juin. Comme quoi, quand on veut, on peut faire un tour d'Europe en vélo, c'est pas simple. Le vélo en Bretagne, sans faire des milliers de kilomètres, c'est aussi bon pour allier santé et découverte. Peut-être que certains font ça cet été. Il y a ceux qui partiront en famille dans le centre de la France. La mer, on y est toute l'année, nous ici, et puis c'est un peu surfait. Une bonne dose de changement d'air à la campagne, un bel endroit près d'une rivière, car un peu d'eau, c'est bien, ça rafraîchit. Pour d'autres, il faudra avoir investi dans The Pilot, c'est un traducteur instantané dont je vous ai déjà parlé ici même, pour aller au Portugal, par exemple. Il y a des lignes d'avion là qui fonctionnent très bien entre Lorient et Porto. Mais peu importe notre destination, il faut trouver un endroit calme. On pourrait amener
quelques livres
du Raymond Carver pour moi, du Xavier Duringer ou du Thomas Vineau. Merci Eric de nous avoir conseillé ça toute la saison de ce Rock Club.
Essayer Philippe Roth,
même si c'est pas celui que j'ai retenu en premier. En tout cas, pendant ces temps de vacances, lire, ça c'est une riche idée. Les Stranglers dans le rock club European Female All Live in All in the Night. Les Stranglers en 88. Ça rappelle des souvenirs. Brigitte Nicolas, alors conservateur, conservatrice du musée ou de patrimoine. C'est ça le terme exact. C'est quoi le terme en fait, vous êtes directrice du musée de la Compagnie des Indes, mais il y a ce rôle de conservateur. Est-ce que c'est rôle particulier?
Oui. En fait, donc je suis conservateur en chef du patrimoine. Ouais. Voilà, ça c'est mon grade, on va dire. Et je suis directrice du musée de la Compagnie des Indes. Voilà, c'est ma fonction de chef d'établissement. Mais dans un musée de France, dont les missions sont définies par la loi de 2002, en fait, le musée doit être dirigé par un personnel scientifique, donc par un conservateur.
D'accord. Voilà. Ce que vous êtes?
Ce que je suis.
En fait, moi, j'ai deux images pour ce métier. Alors, celle d'un vieil homme grisonnant plongé dans des vieilles archives, et forcément celle d'un Indiana Jones qui fait le tour de la planète en bravant tous les dangers. Deux questions pour démarrer. Peut-être question un peu idiote, mais c'est rare d'être une femme dans ce monde du musée ou
non?
Et quelle est la réalité de ce métier aujourd'hui en fait?
Non, je pense que comme beaucoup de métiers culturels, c'est un métier qui est en train de se féminiser énormément. Et qu'en effet, peut-être au siècle dernier, ou en tout cas dans la première moitié du 20e, on avait beaucoup de conservateurs qui étaient des hommes.
Ouais.
Mais bon, voilà, comme dans beaucoup de métiers finalement. Et que maintenant, c'est l'inverse qui est en train de se produire. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui deviennent conservateurs. Il y a beaucoup de conservateurs femmes, en fait, énormément.
Je crois que Thierry voulait dire quelque chose. Au sortir de vos études... pour devenir donc conservateur. Ce sujet de la Compagnie des Indes, c'est quelque chose que vous imaginiez ou vous prédestiniez à autre chose ou à d'autres sujets?
Le sujet, pas du tout, parce que moi, c'est ma deuxième vie, on va dire, de conservateur, puisque j'ai démarré comme conservateur du patrimoine mobilier du Morbihan. Donc, dans une vie précédente, voilà, parce que ça fait plus de 30 ans que je travaille, donc je suis un vieux conservateur.
Patrimoine mobilier du Morbihan, voilà. Ça consiste en quoi?
Alors, en fait, je m'occupais des objets mobiliers hors musée, c'est-à-dire tout ce qui était conservé dans les églises, dans les mairies, chez les particuliers, dans les châteaux. Donc, j'avais une mission de l'État en tant que conservateur des antiquités et objets d'art du Morbihan. Je cumulais en fait deux fonctions. L'une qui était donnée par le département du Morbihan, qui était mon employeur, et l'autre qui était une mission régalienne que me donnait l'État. Donc, à ce titre, si vous voulez, j'étais l'équivalent. Enfin, mon collègue, c'était l'architecte des bâtiments de France.
D'accord.
Donc, on faisait des tournées ensemble. Donc, moi, j'étais rapporteur pour la commission des objets, pour faire le classement des objets.
Il s'occupait de la structure extérieure et vous de ce qu'il y avait à l'intérieur.
Exactement.
D'accord.
Oui, enfin, c'est un peu plus subtil que ça.
Mais j'imagine.
En fait, tout ce qui est... il y a des définitions, en fait, tout ce qui pouvait se bouger. C'est-à-dire, c'est aussi bien un bateau qu'une statue. Alors, les peintures murales, parfois, c'était protégé au titre de l'immeuble et parfois au titre du meuble. Voilà, donc...
Ça veut dire que quand c'était dans le cadre du meuble, ça veut dire que ça pouvait se décrocher ou ça pouvait se récupérer, en tout cas d'une autre manière?
Ça dépendait, en fait, si le bâtiment lui-même était classé au titre des monuments historiques complètement.
Oui, d'accord.
En fait, du coup, la peinture murale était immeuble et ça relevait de l'architecte. Mais si le bâtiment n'était pas protégé, on pouvait le protéger au titre d'un objet. Et donc, dans ces cas-là, ça relevait de mon champ, de mon domaine.
D'accord. Et quand vous arrivez, du coup, à la compagnie, au musée de la Compagnie des Indes, on est encore sur l'objet, mais sur autre chose, sur un autre sujet. C'est quoi? C'est un sujet que vous découvriez complètement?
Oui, vraiment. Ouais. Oui, parce que finalement, pendant 15 ans, sur mon précédent poste, je me suis occupée essentiellement, on va dire, de patrimoine religieux. Parce que c'est quand même une des caractéristiques de la Bretagne, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de patrimoine religieux et beaucoup de chapelles et églises sur lesquelles j'ai veillé pendant une quinzaine d'années. Et voilà, mon choix a été ensuite de changer d'horizon, finalement de passer d'une collection éclatée, hein, sur les, je sais plus combien maintenant il y a de communes à Morbihan, je crois que c'est 232, j'ai plus ça en tête, oui, voilà. Et il y avait 1200 édifices.
Beaucoup de déplacements, en fait.
Voilà, beaucoup de déplacements, c'était extrêmement, moi j'ai adoré ce métier de conservateur des antiquités au Gennar, vraiment. Et puis, voilà, au bout d'un certain temps, j'ai eu envie de faire autre chose, puis pour d'autres raisons, j'ai eu envie de changer d'air aussi, voilà. sans quitter pour autant la Bretagne. Et donc, l'opportunité s'est présentée. Enfin, voilà, j'ai postulé pour ce poste à Lorient.
D'accord. Quand on arrive à Lorient, enfin, moi, je suis là depuis une quinzaine d'années maintenant, quand on arrive dans cette ville, on entend beaucoup parler de reconstruction, de la guerre 39-45, les Allemands. Elle ne fait pas trop d'ombre à la citadelle de Port-Louis, cette base de sous-marins en face? D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, les deux, elles se regardent un peu en chien de faïence. J'étais au milieu de la rade il n'y a pas très longtemps et elles ne se regardent pas vraiment. Il y en a une qui pointe là, c'est voilà.
Alors, les deux sont... Alors, en chien de faïence, non, je ne pense pas. C'est vrai que la citadelle et la base sont chacune sur une dérive. Mmh. Et par contre, elles sont toutes les deux emblématiques de l'histoire de Lorient, de ce qui a... L'une marque vraiment le début du territoire lorientais, et l'autre, d'une certaine manière, à un moment donné, une forme de fin avant un renouveau, bien entendu. Mmh. Mais non, ce sont deux sites vraiment forts. Dans l'histoire de la ville. Donc non, pour moi, elles ne sont pas du tout concurrentielles. C'est au contraire une richesse d'avoir deux sites patrimoniaux aussi.
Alors, quand on parle de musée, donc là, il y a la Compagnie des Indes, il y a ce qui se passe autour de la base. Il n'y a pas eu, à un moment donné, une volonté de se dire on fait l'histoire du pays de Lorient avec une seule entité, je ne sais pas, en termes muséographiques, plutôt que d'avoir des bouts d'histoire comme ça différenciés.
Personnellement, je pense pas que ce soit une bonne idée.
D'accord.
Voilà. Non, je pense pas que l'idée ait été jamais soulevée. C'est tellement différent, c'est tellement deux histoires différentes. Enfin, l'une c'est la Seconde Guerre mondiale avec la guerre maritime, enfin la guerre sous-marine. Et l'autre concerne, en tout cas, la citadelle. C'est plus l'histoire des fortifications. Alors nous, musée, il s'avère que musée de la Compagnie des Indes, on est dans la citadelle. Donc c'est vrai que moi, j'ai un peu le prisme Compagnie des Indes plutôt que citadelle. Puisque la citadelle est en plus gérée par un autre musée que le nôtre.
Ce sont quand même deux bâtiments guerriers, à la base.
Ah oui, ce sont deux bâtiments qui ont des vocations militaires. Oui, absolument.
Pour les Portugais voulaient, j'ai lu ça sur votre site internet du musée de la Compagnie des Indes, les Portugais veulent s'émanciper des musulmans sur les routes de commerce, les Anglais et les Hollandais créent les premières compagnies des Indes pour s'émanciper des Portugais, et les Français arrivent derrière pour prendre leur part.
Pour essayer en tout cas,
Lorient naît de cette concurrence, si je comprends bien. En fait, ce que je me demande, c'est... il y avait les combats maritimes, en tout cas les routes maritimes à gagner. La Compagnie des Indes, est-ce que c'est pas juste le musée d'une entreprise commerciale? Ma vision est peut-être un peu étriquée quand je dis ça, mais... Il y a une notion un peu comme ça, en fait.
Stricto sensu, une compagnie des Indes, c'est une compagnie de commerce maritime à charte, c'est-à-dire qu'elle reçoit ses pouvoirs de l'État et elle a des monopoles et des privilèges. Donc c'est ça, une compagnie des Indes. Mmh. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait plus de l'histoire en regardant que stricto sensu son petit sujet. Hein. Tout bon historien s'oblige à regarder le temps long, le temps large, à contextualiser. Donc c'est beaucoup plus que ça, l'histoire des compagnies des Indes. C'est l'histoire de la globalisation. C'est ce que je dirais aujourd'hui pour aller vite. Donc c'est vaste, immense.
On est déjà dans une forme de mondialisation à l'époque.
Oui, on est là-dessus. Alors, selon les historiens, on a plusieurs époques de mondialisation, mais une des premières, c'est quand même celle qui est mise en place par les compagnies des Indes, puisque là, les flux d'argent, de marchandises, d'hommes se retrouvent tout autour de la planète, puisque c'est le commerce où ce sont les richesses des Indes occidentales, c'est-à-dire les richesses de l'Amérique, l'argent hein, tiré des mines du Pérou notamment, de Bolivie, avec les mines du Potosi, qui va fournir la monnaie qui va permettre aux Européens d'aller ensuite acheter des marchandises en Asie, soit en Inde, soit en Chine, et ces marchandises-là reviennent en Europe. Donc là, on est typiquement dans ce que les historiens appellent la globalisation. Et vraiment, la mondialisation, globalisation, elle a, ces bases capitalistes ont été mises en place au moment des compagnies des Indes.
Donc c'est quoi, c'est 1600, la naissance de l'Orient à peu près? On est en plein milieu de cette histoire.
Pour la France, c'est 1664. Les premières compagnies des Indes, c'est l'anglaise, c'est 1600. La compagnie hollandaise, c'est 1602. Mmh. Voilà. Et ça suit, en fait, ce que les Portugais ont créé, c'est-à-dire qu'ils ont voulu, en effet, trouver une route maritime pour aller, ce qu'on allait chercher les Européens, c'était au départ les épices, principalement, parce que ça valait extrêmement cher au XVe siècle. Et donc il fallait trouver une voie, puisque les musulmans qui s'étaient développés tout autour du bassin méditerranéen, en fait, avaient capté le monopole sur les voies ancestrales, celles des routes de la soie, qui arrivaient jusqu'au bord de la mer Méditerranée. Donc il fallait trouver une solution, et elle était maritime, ils le savaient pour plein de raisons, qu'on pouvait trouver une solution en contournant le cap de Bonne-Espérance et en arrivant ensuite, grâce à la mousson, dans l'océan Indien, là où étaient toutes les richesses de l'Orient, en fait, que ce soit les épices, mais aussi les textiles, la porcelaine de Chine, ensuite, etc. Donc, c'est ce que voulaient les Européens. Et d'abord, les Portugais ont vraiment dominé ce commerce, ont créé les premiers comptoirs, en tout cas européens, puisqu'il y avait déjà beaucoup de commerce interasiatique. Et on n'arrivait pas, c'était pas vierge du tout, c'était la mer de Chine, l'océan Indien, il y avait beaucoup de comptoirs, mais en tout cas les Européens y arrivent, ce sont les Portugais. Et ensuite, voilà, Anglais, Hollandais arrivent, les poussent de certains endroits, puis enfin les Français se mettent à désirer ce gâteau, en fait. Ouais. Et c'est la création de la Compagnie des Indes en 1664.
D'accord. Ouais. Il y a une exposition là qui démarre dans une dizaine de jours, que vous êtes en train de mettre en place, des animaux et des hommes, porcelaine de Chine d'exception. Alors apparemment, il y a des statuettes que l'on va voir pendant l'été, jusqu'aux fêtes de fin d'année à peu près, c'est ça là.
C'est ça.
Toute la fin de l'année là. Ces statuettes qui proviennent du Musée des Arts Asiatiques, d'après ce que j'ai lu, de Paris. Ce sont des objets qui, parce qu'on appelle ça l'or blanc de la Chine, ce que j'ai lu, ce sont des objets qui transitaient déjà à l'époque par l'Orient, par la Compagnie des Indes en tout cas.
Oui. Alors l'une des richesses justement qu'on allait chercher, que les Européens souhaitaient acquérir, c'était, alors donc l'or blanc de la Chine, c'est la porcelaine
parce qu'on
allait chercher des marchandises, mais aussi des technologies qu'on maîtrisait pas. Et l'une d'entre elles, c'est la porcelaine, qui a joui d'un immense prestige pendant des centaines d'années, puisqu'on ignorait totalement le processus de fabrication. Et donc ces statuettes que l'on va exposer pour cette exposition des animaux et des hommes, proviennent d'un nouveau dépôt que j'ai sollicité auprès du Musée national des arts asiatiques, le musée Guimet, il est plutôt connu comme ça, sous ce nom-là. Et donc j'ai fait le choix, moi, de montrer finalement ce qu'on n'a pas déjà dans les collections, puisqu'on a une importante collection de porcelaine de Chine d'exportation, des porcelaines de commande. On en a à peu près plus de 400. Et ce sont principalement les objets que l'on trouvait à la grande vente annuelle de la Compagnie des Indes à l'Orient à partir de 1734, c'est-à-dire des plats, des assiettes, des bols, des théières, tout ce qui, des plats à barbe aussi, en fait, tout ce qui relevait de la table, du service de table ou de la toilette. Parce que c'était ce qui avait de plus facile à vendre, etc. Par contre, la Compagnie des Indes, c'est pas que la grande vente annuelle. C'est aussi tout ce que les marins pouvaient ramener, tout ce que les équipages pouvaient ramener à plusieurs titres. Alors, il y a le grand port permis, mais surtout le petit port permis. C'est-à-dire
le grand port permis.
Oui, mais, enfin, on va rentrer. Oui, c'est un peu. En fait, pour multiplier leur salaire ou pour intéresser les équipages, la Compagnie des Indes permettait, en fait, enfin, il y a plusieurs entrées.
Permettait aux marins de ramener quelque chose pour pouvoir se payer eux-mêmes.
Le grand port permis, on leur permettait d'investir une certaine somme d'argent dans les marchandises qui allaient être aussi vendues pendant la grande vente annuelle. Donc ils étaient intéressés par ces marchandises. Et le petit port permis, finalement, c'était très quantifié. Je ne sais pas, par exemple, si vous alliez à Moka, vous aviez le droit de ramener deux ballots de café. Enfin, voilà, oui. C'est en gros ça. C'est un peu, c'était à titre personnel, ou enfin voilà, c'était très peu, mais finalement, ce petit port permis, il a été détourné pour en faire un commerce, ce qu'on appelle la pacotille, et la pacotille pouvait prendre des proportions considérables, puisqu'on sait que dans certains cas, ça atteignait 30% de la valeur des marchandises à bord des bateaux, d'accord, ou de la cargaison. Alors, il y a plein d'exemples comme ça. Donc, c'est pas rien. Et par ce biais, sont rentrées dans le royaume des marchandises qu'on voit pas apparaître à l'Orient, justement, dans la grande vente, et notamment toutes ces petites statuettes qui ont été extrêmement à la mode grâce à l'esthétique rococo qui démarre dans les années 1720-1730. Donc ce sont des statuettes zoomorphes ou anthropomorphes, voilà, qui ont vraiment fait que les aristocrates, mais pas que les aristocrates, hein, les personnes aisées ont voulu collectionner. Donc on en trouvait voilà dans les grandes collections, dans les plus petites collections d'ailleurs. Par exemple, moi j'ai trouvé une archive qui dit que la belle apothicaresse, j'aime bien cette expression, de Redon possède un coq du Japon, par exemple. Tonight you play only for me. Perform here your new tragedy. Recite it all, believe it all. Imaginary misery. You act sublime and try to hide the weight of this fear's on your chest. Tonight I hear this heart's huge tug cry for a place to caress. Oh. Tonight you play like every day, the part of your own emptiness, endlessly, relentlessly, seeking out pain and distress. And all your calls, they'll just echo, forever trapped in your mind. Tonight I hear this heart used to cry for a place it could hide. Your restless heart. Tonight you play, beg me to stay, to shake your loneliness away. Tonight I hear this heart's huge tug cry for a place it could hide. A place it could lie.
Un rock club tout en douceur ce soir avec Coteau, Restless Earth, vous excuserez mon anglais défaillant, qui sort, ce jeune Finistérien qui sort son premier EP le 15 juin, là, donc c'est dans la semaine. Et vous le trouverez bien sûr dans les playlists de Radio Balise, et puis pour plus d'infos, cotomusique.com. Éric Courtais, on part en voyage en Sibérie.
J'ai dormi. Je me suis endormi le verre, à la main ou presque. C'est le jour. On ne devrait pas tarder à arriver à Perm. Je suis à peine à la moitié du trajet. En cœur, la blancheur des bouleaux dans le soleil, les mares, les étangs, les rivières de la vie russe. Avant Vladimir, pour moi la Russie c'était Jeanne, un pays lointain, inconnu, où les cosaques du Don chargeaient sabre au clair, où les petits chevaux des Mongols paradaient autour des yourtes dorées. Jeanne voulait aller étudier à Moscou. Elle y partit donc, en m'abandonnant à Paris. Je ne l'ai rejointe que des mois plus tard. Elle parlait russe, avait des amis russes. Je sais qu'elle a rencontré Vladimir sur la Volga, au cours d'une excursion en bateau au large de Kazan. Kazan, capitale du Tatarstan, doit être un peu en aval, pas très loin d'ici. En train, on ne voit rien. On traverse des fleuves, on parcourt des forêts. C'est comme si on vous ponçait les yeux au paysage, au papier de verre du paysage, pendant des heures et des heures. Qu'est-ce qui m'a pris de partir seul? J'entends Jeanne tout le temps, la voix de Jeanne. Viens chez moi, on se ferait un thé et on se mettrait au lit. Quel imbécile. On se soignerait, je soignerais Jeanne et elle me soignerait. Nous nous serions pansés et accrochés doucement l'un à l'autre dans l'aube. On se tiendrait les épaules pour s'empêcher de plonger dans la douleur et les crochets. Mais non. J'ai fait le choix de partir, de traverser la moitié de la Russie pour aller dans un village paumé, voir je ne sais qui, une vieille grand-mère, une maison où on a grandi, une enfance. Volodia n'avait jamais voulu me montrer son village natal. Trop loin et trop paumé, disait-il. J'imagine de petites habitations de bois sibériennes peintes en couleurs, entourées de jardins clos, posées au milieu de la plaine. Je me souviens que lorsque nous avions visité la maison de Gorki, Vlado m'avait expliqué que chez lui ça ressemblait un peu à ça, des pièces minuscules, une remise, un poêle en faïence. On avait peur du feu. Plus d'un ivrogne avait brûlé vif dans sa baraque en oubliant de retirer les braises le soir. Encore 2 000 kilomètres de train, j'y serai. Pourquoi faire? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'on cherche dans les déplacements? Que veut-on dans les voyages? Rien ne me rendra jamais Vladimir. Le prince Bolonski a disparu depuis longtemps. Il me racontait des histoires terrifiantes de Russie, des histoires atroces de déportation, d'emprisonnement, de guerre civile. Je m'en rappelle une qu'il avait lue dans « Cavalerie rouge » d'Isaac Babel. Un cavalier rouge arrive dans un village d'Ukraine et cherche un endroit où dormir. Il se retrouve dans une chambre qu'il avait partagée avec des réfugiés, un vieux juif et sa fille. Le cavalier décide de s'allonger à côté du vieillard qui dort déjà. Et, rompu de fatigue, s'enfonce immédiatement dans le sommeil. Au milieu de la nuit, il est réveillé par la jeune fille. « Vous avez eu un cauchemar, dit-elle, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien arrêter de donner des coups de pied à mon père ?» Surpris par la passivité du vieil homme, toujours immobile, le cavalier se retourne, retire la couverture et découvre une terrible blessure dans la poitrine du vieux juif. Il a été massacré la veille à coups de sabre par les Blancs. Le cavalier rouge a dormi aux côtés d'un cadavre que sa fille veillait. Horrifié, il saute immédiatement dans ses bottes. Il saute dans ses bottes et puis sur son cheval et repart vers la Révolution.
L'alcool et la nostalgie de Mathias Hénard. C'est quoi, il parle d'un mort, en fait, d'un voyage, on retourne vers un lieu inconnu,
ouais.
avec quelqu'un qui est mort.
Avec un défunt, exactement. L'alcool et la nostalgie, c'est un voyage en transsibérien que fait un homme, Mathias, accompagné d'une dépouille, Vladimir, afin d'emmener celle-ci au fin fond de la Sibérie jusqu'à son village natal.
C'est plutôt une histoire de deuil.
Alors... C'est déjà 3000 kilomètres à parcourir à travers une fabuleuse succession de paysages et autant de souvenirs d'une histoire complexe mettant en scène les trois complices Jeanne, Mathias et Vladimir. Mmh. Puis c'est un récit qui survole également l'histoire, la géographie et la littérature russe, car on se souvient dans ce dans ce livre de Dostoïevski, de Gogol, de Tchekhov. On parle également de Babel et de manière implicite aussi le personnage de Tolstoï. Et puis on évoque aussi Tchekhov qui prétendait que face à la mort, il ne reste que l'alcool et la nostalgie. Donc c'est extrêmement romantique, mélancolique et les paysages russes offrent un décor fabuleux à cette histoire poignante.
Ça vous parle, Mathias Hénard, Brigitte Nicolas, ou alors, pas du tout?
De réputation, j'ai jamais rien lu de lui. Par contre, c'est vrai que, ça, en vous écoutant, ça me faisait penser à un film, entre autres choses, à beaucoup de choses de la littérature russe, évidemment, mais au Barbier de Sibérie, en fait, où on voit ces magnifiques paysages de la Russie. Enfin, voilà, je...
Bah, en fait, le territoire russe, c'est vraiment un territoire qui est tellement immense, un peu comme les États-Unis. On parlait de littérature américaine.
C'est l'Est sauvage, en fait.
Complètement. Et du coup, je pense que ça inspire énormément d'écrivains et puis voire de cinéastes. Parce que ce roman, L'alcool et la nostalgie, fait partie d'un projet qui avait été lancé par France Culture. L'idée étant de mener des écrivains d'un bout à l'autre de la Russie et les amener à décrire ce qu'ils ont vu, de tenir un carnet de voyage. Alors dans la bande, il y avait Olivier Rollin, il y avait Jean Echnos, Maëlys de Kerangal.
Et il fallait qu'il parle de voyage à l'intérieur, de ce voyage ou pas?
En fait, c'était je dirais que c'était pas autour du voyage, c'était plutôt les paysages qui prenaient comme ça à travers les vitres du train, quoi, qui est un voyage qui fait 9000 km, qui dure à peu près une semaine.
Et c'est France Culture, hein, donc qui a lancé ce projet-là. Et il y a un projet sonore en parallèle ou pas, hein?
Alors, à l'époque, c'était sorti parce que c'est un projet qui commence à dater un peu, qui a 8-9 ans. Mmh. Et je pense qu'on peut retrouver en fait des pièces radiophoniques de cette expérience sur France Culture.
Il faudrait qu'on cherche. Fouiller dans les archives. On va peut-être demander l'aide d'une conservatrice.
Juste deux.
Thierry, excuse-moi.
On peut préciser que Mathias Hénard a eu le prix Goncourt en 2015. Et c'est justement un écrivain qui est tourné vers l'Orient au sens large, c'est-à-dire pas simplement la Russie, mais aussi l'Orient. Boussole parle beaucoup du Proche et du Moyen.
Exactement. Il y a aussi, moi j'ai découvert Mathias Hénard à travers un roman qui s'appelle Zone, et qui est aussi un long voyage en train, et c'est un roman assez... c'est une aventure littéraire parce qu'il ne comporte aucune ponctuation. Donc ça fait 500 pages, et la phrase commence au début du roman et se termine à la fin.
Et c'est compréhensible et on y arrive.
Et puis en plus c'est bizarre parce qu'on est dans un, ça me rappelle un peu le roman de Butor, c'est-à-dire qu'on est dans un train, mm-hmm. et on a un personnage qui à travers ce voyage nous ramène également, c'est vraiment aussi des voyages intérieurs, il nous ramène à l'histoire. En fait, autour de la Méditerranée. Donc, effectivement, Thierry disait qu'il était tourné vers l'Orient. Effectivement, il était tourné vers l'Orient dans tous les sens du terme. Il a également écrit un roman qui s'appelle Rue des voleurs, qui parle du printemps arabe. Donc, il écrit également sur la réalité d'aujourd'hui et sur sa vision qu'il a des choses. Et puis, un autre roman extraordinaire de lui qui s'appelle Parleurs de leur bataille, des rois et des éléphants, prix Goncourt des lycéens, et qui évoque. Un voyage qui est peut-être pas vrai, on ne sait pas trop, un voyage de Michel-Ange contacté par le sultan à Constantinople pour Michel-Ange pour construire un pont au-dessus du Bosphore. Et puis voilà, c'est vraiment un auteur que je conseille. Voilà.
Moi, je vais vous conseiller en parallèle, en lisant tout ça, un projet musical qui s'appelle un artiste qui s'appelle Tilassine, qui a fait un projet comme ça musical. Pareil, en écrivant, créant son album dans un train, en traversant la Russie, en allant pareil dans un village d'un ami à lui. Enfin bref, il y a un magnifique album, Tilassine, je vous conseille.
Mais il se passe des choses dans les trains parce que je connais aussi un plasticien qui lui a fait des œuvres comme ça, juste avec son crayon comme ça. Et en fait, son crayon était rythmé par les balancements du train. Et voilà, je crois que c'est entre Paris et Le Havre. Voilà.
Allez, un petit peu de musique.
Et toi, comment tu t'appelles ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Radio Balise, 99.8.
Et je m'appelle Rock Club et on écoutait The Shenzhou Blues Cowboy, Get Rim, qui étaient eux au pied dans la vase le week-end dernier. D'ailleurs, ils devaient être assez dans la vase parce que dimanche, il a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Thierry, c'est à toi.
Oh, mais j'y vais. Donc, musée de la Compagnie des Indes. Lorient est une ville un peu pas comme les autres. D'abord, elle est encore jeune. Tout juste 350 ans et des poussières. Rien à côté de ses voisines, Quimper ou Vannes. Sa naissance est une étrangeté, un fait du prince à un moment où le monde bascule. La décision de Louis XIV et de Colbert de créer un siège à la Compagnie des Indes en 1666 est une des conséquences directes des grandes découvertes, de la concurrence accrue entre les nations européennes. Un bouleversement dont on mesure à peine les conséquences au moment où la ville sort des limbes. Les dissensions internes au royaume sont une menace pour son intégrité, ce qui justifie d'autant plus le principe de la monarchie absolue. La féodalité appartient à l'ancien monde. Désormais, la puissance d'un État se mesure à son commerce. Lorient est un port, un lieu de transit entre l'Orient et l'Occident. Bon, ça c'était hier, avec moult détails. Une belle histoire. Une histoire que nous compte à sa manière le musée de la Compagnie. Une histoire qui se choisit. Une histoire qui, pendant un temps, fut oubliée. Lorient est une ville des décombres, d'une mémoire absente. Une ville détruite, une ville reconstruite. Une reconstruction qui a fait table rase du passé. Son passé, en 1945, est enfoui sous des amas de gravats. Lorient est désormais tournée vers l'avenir. Elle est moderne, totalement, et épouse à merveille ce monde de la technique, des Trente Glorieuses. Tout est rectiligne, bien droit. On avance d'un pas hardi, sûr de soi dans un tableau de Mondrian en trois dimensions. Foin de fioritures, pas le temps. Demain est déjà là et de toute façon il faut construire. Construire pour tous ceux dont les maisons ont été détruites, construire encore pour ceux qui abandonnent définitivement les campagnes pour la ville. Alors, le passé dans cette histoire, on n'en a que faire. Pas d'histoire. Et puis, un jour, je ne sais trop quand, l'horloge du temps s'est rappelée à nous. Elle a frappé à la porte de notre mémoire. Non, nous n'étions pas nés d'hier, pas tout à fait, d'un peu plus loin. Petit à petit, on a commencé à dévider le fil retrouvé. Ravi d'être si vieux, ravi d'appartenir à une histoire pas comme les autres, où se mêlent l'exotisme, l'aventure, le drame. Pirates et corsaires nourrissent l'imaginaire social de nos sociétés. Ils sont nôtres. Passé et modernité se conjuguent heureusement, merveilleusement. Il fait bon être l'Orientais. Belles images, pas nécessairement vraies. Pas complètement fausses non plus. Des images. Des images que l'on retrouve au musée de la Compagnie des Indes, sise à Port-Louis. Plus juste, plus précise. Un musée, c'est important. Cela vous enracine un monde. Sanctuaire moderne d'un passé, antre du sacré, on se doit, en ces lieux, d'adopter une attitude digne. Il signifie cette longue trace du temps, pas simplement évanescente, mais tangible. Derrière les vitrines, on le voit d'abord, on le dit ensuite. Bien agencé, il vous raconte une histoire. Mais est-ce l'histoire ? Disons que l'on s'en accommode. Bien sûr, a priori, tout est indiscutable. Les documents sont authentiques, les reconstitutions exactes. On ne triche pas avec la réalité. Non, seulement on l'oriente, gentiment, et le plus souvent sans même y songer. On écrit une légende modernisée où, le plus souvent, on exalte un passé toujours glorieux, rarement sinistre ou glauque. On met en avant tout un imaginaire dont on est soi-même porteur. Beau navire et belle mer. L'aventure se doit d'être plaisante. Elle l'est aussi, mais pas seulement. Aujourd'hui, on parle davantage du lumpen prolétariat des mers, ces marins embarqués parfois de force, confrontés à l'ennui, à des règles très dures, à une nourriture infâme, au scorbut, à la maladie, à la mort. Galériens sans le titre. Terrible. Pas moins que la traite négrière, auquel l'Orient a participé le plus tranquillement du monde, et dont on commence tout juste à parler, mais toujours en l'embellissant. Belles images de Tromelin, l'île aux esclaves, des esclaves abandonnés, des esclaves longtemps oubliés, même dans notre mémoire. On les a redécouverts, il y a peu. Encore une belle exposition, qui dit le malheur des hommes. Trop belle. Allez, encore un effort pour être au cœur de l'humain. Un humain qui n'a pas toujours du cœur, justement, et qui ne veut pas le savoir. Faut-il le lui dire? Peut-être, peut-être pas.
Avant que vous réagissiez, Brigitte, Nicolas, sur les chroniques de Thierry, j'ai toujours une expression que je connaissais pas. Et tu as dit tout à l'heure, aujourd'hui on parle davantage du lumpen prolétariat des mers. C'est quoi? Après on comprend dans la suite de ton texte, parle dans le micro s'il te plaît.
Le lumpen prolétariat, c'est un terme marxiste qui voulait dire les sous-prolétaires, les sous-ouvriers.
D'accord, le sous-sous-sous, la lie de l'ouvrier, quoi. Exactement. Le bas du bas. Ouais. Une réaction, Brigitte Nicolas, son texte, ou comme ça en fait, il parle d'un passé trouble qu'on a tendance à occulter, qu'on a tendance aussi à donner une image d'épinal, comme ça.
Oui, parce que c'est peut-être difficile de toute façon de montrer la réalité de la traite et de l'esclavage dans un musée. C'est pour rendre ça réaliste, il faudrait vraiment changer, je dirais, de vision des musées complètement. Pour en avoir visité plusieurs consacrés à l'esclavage, on est toujours dans ce type de rapport. Un musée montre en effet des objets, alors qu'ils soient beaux ou pas, mais c'est un sujet difficile à traiter. Alors nous, on le traite dans le musée. D'ailleurs, c'est pas quelque chose que l'on cache du tout. C'est pas quelque chose qui est occulté. En tout cas, pour ma part, pas du tout.
Mais en tout cas, dans l'image globale de la ville de Lorient, d'une manière générale, dans son histoire, peut-être pas chez vous, mais on n'en parle pas tant que ça, en fait.
On n'en parle pas tant que ça parce que donc Lorient a été en effet un port négrier à travers sa Compagnie des Indes, puisque c'est elle qui avait reçu le monopole de traite du roi en 1720. Et donc la Compagnie des Indes a armé 192 bateaux à la traite, dont 152 en partance de Lorient. C'est un souvenir qui est... pas fort, je dirais, à Lorient, parce que c'est une compagnie d'État, avant tout, qui a armé à la traite. Alors, bien sûr, à la fin du monopole de la Compagnie des Indes, quelques armateurs négriers lorientais se sont lancés dans ce commerce, mais c'est pas plus de 25 armements. Donc, il n'y a pas une inscription dans la mémoire des lorientais. On n'a plus les familles, je dirais. C'est un peu la différence avec la ville de Nantes, qui a armé beaucoup plus. Nantes, c'est quand même la grande ville négrière française.
Oui, sa richesse est construite là-dessus.
Voilà, et du coup, on a encore dans la ville, je dirais, on peut dire les stigmates ou l'héritage, et les familles sont encore présentes. Alors qu'à Lorient, pas du tout. Il y a une espèce de... Finalement, on se dédouane parce que ces personnes, c'est l'État qui a fait la traite. D'accord. À Lorient. Donc c'est pour ça que je pense que ce souvenir, il est presque anéanti, on va dire, et il est anéanti par la Seconde Guerre mondiale, qui a été le grand traumatisme lorientais, qui fait que le reste n'existe plus. Vraiment, au sens presque dans la pierre, ça n'existe même plus.
Thierry,
je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Brigitte Nicolas. Il y a eu un véritable traumatisme avec la Seconde Guerre mondiale, une espèce d'amnésie totale sur le passé. Bon, on peut dire que, entre autres, le Bouédec a été un des grands restaurateurs de cette mémoire passée, sur la Compagnie des Indes, etc. Pas seulement, mais...
Ouais. Sur la traite à Lorient, c'est Olivier Pétré-Grenouillot professeur à l'UBS, avec lequel, c'était 2007, j'avais fait le colloque Lorient, la Bretagne et la traite.
Ouais, et qui lui a valu aussi quelques ennuis.
Alors, c'était au moment même, pas le colloque, non, c'était au moment même où il avait cette difficulté. Mmh. Mais moi, je suis très fière de la ville de Lorient, d'ailleurs, qui n'a pas du tout trouvé un prétexte. Vraiment, le maire a été très bien, moi, je l'en remercie, parce qu'on était en plein moment problématique avec Olivier Patrick-Grenouillot, qui était accusé pour ce.
Il
pour
a écrit un livre qui s'appelle pas. La traite négrière.
Voilà.
Justement.
Et il était accusé, en fait, de révisionnisme et
de vouloir édulcorer.
De nier un génocide. Mais la traite négrière n'est pas un génocide. La traite négrière est un crime contre l'humanité, mais c'est pas un génocide. Voilà. Donc il y avait toute une polémique.
De noyer la traite européenne dans les différentes traites qui avaient pu avoir lieu, traite musulmane et la traite interne.
Ouais, mais on lui parlait essentiellement de la traite atlantique, c'était le propos de son ouvrage. Donc, principalement, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, on avait fait ce travail-là, et puis moi, j'avais fait une exposition à ce moment-là au musée de la Compagnie des Indes qui s'appelait Comptoir d'Afrique, qui montrait l'histoire de la Compagnie des Indes en Afrique, et à la suite de quoi, j'ai consacré une des petites salles, parce que c'est tout petit le musée de la Compagnie des Indes, c'est 600 mètres carrés, mais une des 8 salles consacrées à l'histoire, vraiment, à la traite négrière. Et puis maintenant, on a depuis l'année dernière un bateau négrier, puisque c'est le dépôt de l'association. J'ai demandé à l'association Les Anneaux de la Mémoire de nous déposer ce bateau pédagogique qui montre un navire négrier. Donc voilà, il n'y a pas de.
Qui se trouve où dans la.
Dans le musée, dans chez le nous. Musée, oui, dans la salle. On a 2 salles consacrées aux comptoirs africains, et dont une qui est spécifiquement consacrée à l'Afrique. C'est très difficile dans 15 mètres carrés d'évoquer la traite négrière, l'esclavage, etc. Mais c'est quelque chose que le musée fait régulièrement à travers ses expositions, par l'exposition Tromelin qu'on avait présentée il y a 2 ans ou 3 maintenant à la maison de l'agglomération. Et puis par des conférences que je fais régulièrement ou par des célébrations. On commémore régulièrement l'abolition de l'esclavage au musée par différents événements. Donc ça, c'est quelque chose que, en tout cas, au musée, on ne culte pas du tout. Voilà. On fait ce qu'on peut pour l'instant avec peu d'objets. Voilà, j'espère que dans un futur grand musée, on peut toujours rêver, on pourra mieux consacrer notre muséographie à ce sujet, en tout cas qu'on ne met absolument pas sous le tapis chez nous.
En tout cas, merci beaucoup, Brigitte Nicolas, parce que l'heure tourne. On y est. Alors, comme d'habitude, j'essaie de passer un morceau supplémentaire, mais j'y arrive pas. Donc, mais en même temps, ça veut dire que le sujet est riche et on aura encore beaucoup de choses à dire. On va revenir là pour clôturer notre émission sur. Reprendre un petit peu d'agenda. Alors donc du coup il y a cette exposition là qui démarre.
Alors elle est inaugurée le 22 juin, donc elle ouvre au public le 23 juin prochain.
D'accord.
Voilà, samedi et jusqu'à la fin de l'année. Donc des animaux et des hommes. Alors ce sont des porcelaines de Chine, statuettes zoomorphes et anthropomorphes et puis quelques lacs que l'on ajoute. Enfin ça va être très beau.
D'accord.
Dans notre site. Donc je vous invite vraiment à venir découvrir cette exposition qui présente des œuvres inédites du musée Guimet.
Donc à partir du 23 juin.
Exact.
Eric, toi tu voulais nous annoncer quelque chose ?
Ouais, une fois n'est pas coutume, un film d'animation pour être précis sur Arte. Mercredi en deuxième partie de soirée à 22h35. Consultable déjà sur Arte 7, et c'est un film qui est librement adapté de la bande dessinée de Chris et d'Étienne Davodeau. Chris, scénariste de BD, qui faisait partie aussi de la bande des écrivains qui a traversé la Sibérie.
Voilà. D'accord.
Et en fait, ça s'appelle Un homme est mort, et c'est une adapté de leur BD en fait, et qui retrace en fait le combat des ouvriers brestois dans les années 50 et la mort d'un ouvrier, et tout ça filmé par la caméra citoyenne et engagée de René Vautier.
D'accord. Thierry, toi t'as quelque chose à annoncer ?
Un projet peut-être, celui de Housse de Cornemuse à l'effigie des Indiennes de la Compagnie des Indes. C'est une idée qui est dans l'air en tout cas.
D'accord. Moi je voulais faire un petit focus sur le festival de Kerrervie qui démarre le 22 juin jusqu'au 1er juillet avec à l'intérieur un spécial copinage. Bonjour Cécile. Cause déviation, le mardi 26 à 18h, théâtre en voiture avec 10 comédiens et dont 10 autos, des confidences, de la dérision et des problèmes de soupape. En tout cas, c'est la 36e édition de ce festival de théâtre en plein air sur les bords du Blavet, et vous trouverez toute la programmation qui est très très riche sur kerervie.com. Cette heure se termine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette heure qui a passé super vite.
C'est vrai. Merci.
Les gars, bonsoir. À la semaine prochaine. On reçoit la semaine prochaine Anaëlle Le Blavec, qui est une championne de surf en e-sport. Donc voilà, on va pouvoir parler de compétition, d'handicap, de surpassement de soi, etc. En tout cas, merci à...
Ça va être dur avec la Coupe du Monde.
Ça va être dur, parce qu'en fait, du coup, je pense qu'Eric va nous parler de football.
De littérature et football.
De littérature et football, mais c'est très très bien comme ça. Merci Nicolas pour la technique. À bientôt, à la semaine prochaine.